Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour à nos chers auditeurs aussi. Merci de nous recevoir chez vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas Damien?
Eh oui, c'est toujours un plaisir et d'autant plus de vous parler cinéma, car c'est la conversation autour du cinéma qui débute. Et donc malgré le confinement et la fermeture des salles de cinéma, eh bien on vous parle cinéma, mais Anne fait des recherches dans la cinémathèque mondiale pour vous parler de films historiques, enfin films de l'histoire, on va dire, du cinéma. Et aujourd'hui, nous allons débuter avec un film de 1937 qui s'appelle L'Invincible Armada. Alors, de quoi nous parle ce film ?
Tout à fait, l'Invincible Armada, et oui, c'est 1937, comme tu dis. Ça a été quand même une sorte d'âge d'or du cinéma, quand même, les années 30, 37, 40. Il y a eu de très beaux films à ces époques-là, avec de très, très grands acteurs, très grands comédiens. C'était une chouette période, en fait. Alors, l'Invincible Armada, c'est un film britannique. Alors, c'est de l'aventure, c'est historique, il y a un peu de guerre, bien sûr. Ça dure 1h40. C'est un film de William K. Howard, qui est un réalisateur, auteur, producteur américain. Et pourtant, le film est britannique, lui. Hein. En fait, il n'y a quasiment que des acteurs britanniques, d'ailleurs. On va tout de suite donner leur nom, tiens. Après, je vous parle un peu de l'histoire. Donc, on a quand même Laurence Olivier dans ce film. On a James Mason. On a une formidable actrice qui joue le rôle d'Elisabeth Ier, puisque ça se passe sous Elisabeth Ier d'Angleterre, qui s'appelle Flora Robson et qui est extraordinaire dans son rôle d'Elisabeth. Pourquoi je parle d'Elisabeth ? Parce que en 1587, l'Angleterre est menacée par la puissance grandissante de l'Espagne. Et oui, l'Espagne devient une grande puissance à son tour, et menace l'Angleterre. La reine Elisabeth Ier feint d'entretenir de bonnes relations avec le roi Philippe d'Espagne, tout en soutenant l'action de Sir Francis Drake, qui fait la course au navire espagnol. Un jeune noble, Michael Ingoldsby, doit combattre les Espagnols au risque de sa vie, ce qui déplaît fort à une suivante de la reine, qui s'appelle Cynthia et qui aime Michael. Il y a de tout, c'est pour ça que je disais, hein, il y a de l'aventure, il y a de la romance, voilà, c'est historique, il y a vraiment de tout. Il est formidable ce film, moi je l'aime énormément. J'ai la chance d'avoir le DVD, mais en fait je ne l'avais pas acheté, je l'avais enregistré il y a très longtemps, il était passé sur une chaîne cinéma et j'avais eu la chance de pouvoir l'enregistrer. Donc voilà. Alors en fait les acteurs sont vraiment au top. Hein. Il y a Howard Douglas également, il y a Henry Oscar. C'était de grands acteurs de l'époque. Hein. Les noms que j'ai donnés tout à l'heure, Laurence Olivier, James Mason, on les connaît absolument. Ils ont tourné pendant des années. C'était de grands acteurs. L'Invincible Armada. Donc alors, qui est quand même un petit peu William K. Howard, le réalisateur ? Eh bien, c'est donc un producteur américain. On lui doit, par exemple, en 1932, un Sherlock Holmes, pas mal du tout, avec Clive Brook dans le rôle de Sherlock Holmes. En fait, c'est le Sherlock Holmes avec le professeur Moriarty, l'affreux Moriarty, l'ennemi numéro un de Sherlock Holmes. Et ce Sherlock Holmes-là tourne autour de cette histoire entre Moriarty et Sherlock Holmes. C'est un film très très chouette en fait. En 1936, on lui doit Une princesse à bord. Alors l'actrice principale, c'était Carole Lombard. Carole Lombard qui était d'ailleurs, petite histoire, qui était la fiancée, l'amoureuse de Clark Gable. Et en fait, ça s'est très mal terminé pour Carole Lombard parce qu'elle est décédée en 1943, à l'âge de 33 ans, dans un accident d'avion. Et Clark Gable a été inconsolable pendant très 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 longtemps. C'était une grande actrice, elle avait déjà un beau palmarès derrière elle, Carole Lombard, elle était splendide. Voilà, donc elle est dans Une princesse à bord, tournée en 1936. Et en 1943, j'ai trouvé aussi Johnny Come Lately, ça veut dire Johnny arrive trop tard. Et le rôle principal était tenu par James Cagney, qui était aussi un acteur excellent et très très connu à l'époque. C'est un film sur la corruption aux États-Unis. Il y avait de quoi faire pour l'époque. Voilà, l'invincible armada. On passe, voilà.
D'accord, donc.
J'espère que vous pourrez le trouver parce qu'il est vraiment formidable. En tout cas, si vous aimez l'air élisabéthaine de cette époque-là, Élisabeth Ier, vraiment ça vaut le coup. L'invincible armada, on se souvient, c'est une flotte. Hein. C'est une flotte de navires, l'invincible armada. On l'appelait comme ça. Voilà.
Voilà pour l'invincible armada. Et maintenant, on continue avec un film de 1943 qui s'appelle La main du diable. Alors, ça fait peur comme titre, ça.
Ah oui, oui. On passe à... Ah ben là, on arrive dans du fantastique, presque de l'épouvante aussi. Hein, mais alors, formidable, quoi. Un film extraordinaire qui est sorti, effectivement, tu l'as dit, en 43, en avril, je crois que c'était d'ailleurs. Là, il a été repris d'ailleurs en avril 2001, ce film. Et ah oui, alors là, alors le réalisateur, c'est Maurice Tourneur. Maurice Tourneur, moi, j'adore ce réalisateur parce que tout ce qu'il a fait tourne autour du fantastique, tourne autour de... Je sais pas, c'est toujours très magique, les films de Maurice Tourneur. C'est un réalisateur, scénariste, producteur français qui, en fait, il a beaucoup tourné entre 1912 et 1948. Il est décédé en 1961 à 85 ans. Et vraiment, on lui doit des films formidables. Par exemple, en 1941, il a tourné Volpone. C'était une comédie dramatique avec Harry Bore, le grand, grand, grand acteur Harry Bore. Il y avait Louis Jouvet, Charles Dullin, Jacqueline de Lubac. Tiens, Jacqueline de Lubac, en passant, d'ailleurs, ça a été la compagne de Sacha Guitry, excusez-moi, entre 1935 et 1939. Voilà, j'ai tout dit là-dessus. Et puis en 1941, on lui doit également Mamselle Bonaparte, comédie dramatique avec Edwige Feuillère, la grande Edwige Feuillère, Raymond Rouleau, Simone Valère, voilà, que du beau. En 1944, il a tourné Cécile est morte. Alors là, c'est un polar sur Maigret, avec un Maigret, et c'était Albert Préjean, ce grand acteur Albert Préjean, qui endossait le rôle du commissaire Maigret. Cécile est morte. En 1948, j'ai mis de côté aussi, mais ce sont ceux qu'on connaît le mieux de Maurice Tourneur, parce qu'il repasse de temps en temps. 48, donc c'est L'impasse des deux anges, comédie dramatique, avec Paul Meurice, Simone Signoret, Marcel Héron, vraiment. Mais il fait, bon, tous ces castings sont toujours prestigieux, et Maurice Tourneur, c'est quand même vraiment, vraiment un grand, grand, grand réalisateur des années 20 et 50 jusqu'à 50, quoi, entre 20 et 50. C'est vraiment... Alors là, dans La main du diable, bon, alors, on va quand même voir ce que c'est que cette histoire. C'est l'histoire d'un peintre sans le sou. Ben oui, oui, ça existe, hein. Ça existait surtout à l'époque, effectivement, qui passe un pacte avec le diable. En fait, il achète sa main qu'il conserve dans un petit coffre de bois. Mais au bout d'un an, il doit l'avoir revendue, sinon son âme est damnée. En fait, pour étendre un petit peu, c'est un homme qui semble traqué et qui arrive un soir dans une auberge isolée de montagne. sa main gauche est gantée. Il raconte devant les pensionnaires rassemblés son extraordinaire histoire. Voilà, c'était lui, le peintre sans talent, qui avait acheté donc ce talisman qui devait normalement lui porter bonheur, cette main. Et puis au début, ça fonctionne. Effectivement, il devient très talentueux, il devient riche, il est considéré, heureux, etc. Voilà. Seulement, voilà, il faut qu'il se débarrasse de cette main avant un an. Sinon, il sera damné pour l'éternité. Et malheureusement, il oublie l'échéance. Et c'est un film extraordinaire. Alors évidemment, pareil, il y a un casting fabuleux, Pierre Fresnay. Mais c'est lui, le pauvre peintre, sans talent. Pierre Fresnay, on a Noël Roquevert, on a Pierre Larquet, Jocelyne Gaël, bref, des grands acteurs de l'époque également. C'est un très chouette film. Si vous aimez avoir quelques frissons, si vous aimez Pierre Fresnay qui apparaît absolument dans tous les plans du film, si vous aimez, là, ces histoires fantastiques, la main remue quand même, hein, quand on ouvre le coffret. Voilà, eh bien, ce film est pour vous absolument. La main du diable. Voilà. Non. Donc c'est quand même... ouais.
C'est ça, un film fantastique des années 40. Et, voilà. Et on va continuer avec un autre genre. En 1951, c'est le film Laisse-moi t'aimer de Don Hartmann.
Oui. Alors c'est une... Eh bien, mais chérie, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je regardais un petit peu, pour vous d'ailleurs, pour vous faire plaisir, pour vous trouver des films, je regardais dans ma vidéothèque, voilà, tous les films que j'aime, qu'on ne voit pas souvent, qui peuvent vous plaire, vous qui êtes amoureux, du cinéma. Et puis j'ai découvert un film que j'avais oublié, et qui s'appelle « Laisse-moi t'aimer ». Mister Imperium. Et quand j'ai vu les noms des acteurs, j'ai vu Lana Turner, Ezio Pinza qui était un grand chanteur d'opéra de l'époque, je me suis dit, mais je ne me souviens plus, et je l'ai regardé. Et franchement, c'est une petite découverte. C'est un film qui ressemble à aucun autre. C'est pas un chef-d'œuvre, hein. C'est vraiment un très beau film, mais je ne le mets pas forcément dans les chefs-d'œuvre. Il est très peu connu. Il vaut la peine, évidemment, avec une Lana Turner splendide. Et ça, c'est bon. Ça, déjà. Alors, c'est une romance, un peu drame. Ça dure 1h27, donc on a dit 1951. Alors, c'est l'histoire d'une jeune chanteuse qui se trouve en Italie. C'est une jeune chanteuse américaine. Et un prince qui passe par là tombe amoureux d'elle. Malheureusement, le père de ce dernier meurt et il doit repartir accomplir son devoir. 12 ans passent, ils se retrouvent. En fait, il y a quand même un traître dans l'histoire quand il est rappelé auprès de son père, ce prince qui est en train de mourir et qui va mourir d'ailleurs, et qui doit prendre donc la place du roi. Il y a le premier ministre qui vient voir cette jeune femme et qui lui dit que ben voilà, c'est fini, quoi, que le prince est reparti pour devenir roi et que c'est terminé, voilà, ce sera un beau souvenir. En fait, il oublie de lui dire que le roi en question lui a écrit une lettre, enfin le prince lui a écrit une lettre à cette jeune femme pour lui expliquer pourquoi il partait et qu'il reviendrait très rapidement. Ah, ce premier ministre, le vilain. Alors, le réalisateur, c'est Don Hartmann. Alors, Don Hartmann, c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il est décédé en 1958 à 58 ans. Mais il a eu le temps quand même de faire pas mal de films. Alors, j'ai mis de côté 1947, il a tourné L'homme de mes rêves avec Ginger Rogers. Et Cornel Wilde, ah oui, des grands acteurs de l'époque. 1948, La course au mari avec Cary Grant, Franz Houghton et Betsy Drake. Ah, un film délicieux, absolument délicieux. Et en 1949, j'ai mis de côté aussi Mariage compliqué avec Robert Mitchum et Janet Leigh. Là, ce qu'il a fait, Don Hartmann, il a fait de très, très, très jolies choses, en fait. Alors là, bon, ben, j'ai parlé de Lana Turner, j'ai parlé d'Ezio Pinza, qui était un grand chanteur italien, un grand chanteur d'opéra, voix basse, c'était une basse. On a Debbie Reynolds. Alors, c'est amusant parce qu'elle elle n'a pas un grand rôle. On la voit, elle est très, très jeune, là. Elle a 19 ans dans ce film. C'est assez extraordinaire. Elle est toute mignonne, on la reconnaît absolument aussitôt. J'en avais déjà parlé de Debbie Reynolds qui, je ne sais pas, si on se souvient, j'avais parlé d'elle parce que je voulais simplement dire qu'elle était la maman de Carrie Fisher. Qui était la princesse Léa, n'est-ce pas, et qu'elles étaient décédées toutes les deux en 2016 à un jour d'intervalle. Il y en a une qui est décédée à 85 ans et l'autre est décédée de chagrin à 60 ans parce qu'elles étaient extrêmement, extrêmement liées toutes les deux. Elles vivaient l'une à côté de l'autre. Enfin voilà, bon, c'est assez étrange quand même. Donc elle est là dans ce film, la petite Debbie Reynolds de 19 ans. Et puis on a Barry Sullivan aussi qui était un grand acteur de l'époque. J'ai été très, ça dure 1h27, j'ai été très, très surprise parce que je l'ai vraiment redécouvert. J'avais dû le regarder il y a très longtemps. Et c'est mignon comme tout, c'est assez rafraîchissant et Turner vraiment vaut quand même le détour, c'est sûr. Voilà, voilà, laisse-moi t'aimer.
Laisse-moi t'aimer, donc. Et on continue dans les années 50 avec un film de Fritz Lang qui s'appelle Le Tigre du Bengale.
Ah là, on passe dans un... Alors là, il y a deux films qui se suivent en fait, hein. C'est la première histoire, c'est le tigre du Bengale, et on va donc en parler, et ensuite on parlera du tombeau hindou, qui est la suite absolue du film. Alors d'ailleurs, à ce propos, le premier, le tigre du Bengale, est sorti en juillet 1959, et le tombeau hindou en août 1959, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu. En fait, ils ont tourné la suite presque immédiatement. Je me demande même si ça n'a pas été fait à la suite complètement, comme ça, sans qu'il y ait un arrêt, je ne sais pas. Mais c'est très rare, hein, deux suites comme ça qui sont qui ont une année entre eux, comme ça. Enfin, une année, non, qu'est-ce que je raconte? Un mois, pardon. C'est-à-dire que le premier, c'était 22 juillet, et le deuxième, c'était août. Alors, je ne sais plus quel jour exactement. Si, c'était le 7 août. Voilà, ce n'est pas un an, c'est un mois. Je pense qu'ils ont été tournés en même temps, en réalité, et qu'ils sont sortis en deux parties, deux mois différents. Alors, on parle du premier. Alors, ce sont deux films extraordinaires. Quand je vous dirais que c'est Fritz Lang qui les a réalisés, le grand, l'immense Fritz Lang, évidemment, déjà, ça donne une petite idée. Donc le premier dure 1h36, Le Tigre du Bengale, c'est de l'aventure. Alors c'est français, italien et allemand. Voilà, il y a un peu de, il y a de toutes sortes d'acteurs, italiens, allemands et français. Ça a été repris d'ailleurs, Le Tigre du Bengale, en juillet 2019. Peut-être que certains d'entre vous sont allés le voir au cinéma, puisqu'à l'époque le cinéma était ouvert, puisqu'il y a cette reprise et qu'il a dû passer dans certains cinémas. Alors Fritz Lang, on rappelle quand même, réalisateur, scénariste, producteur, allemand, américain. Il avait les deux nationalités. Et lui, il est décédé en 1976, à l'âge de 85 ans. Alors c'est vraiment un grand. Hein, alors j'ai mis de côté, bon là juste pour le resituer, mais ce sont des films très connus. En 1922, il a réalisé Docteur Mabuse, le joueur. Et d'ailleurs en 1932, il a enchaîné sur Le Testament du Docteur Mabuse. Ce sont des films assez extraordinaires quand même. En 1934, Lilium, il a réalisé Lilium avec Florel et Charles Boyer. Il y avait Roland Toutain aussi dans le film. Lilium, assez... très très beau film. Et alors en 1931, un film qui est très très connu quand même, même si on ne l'a jamais vu, on en a forcément entendu parler, M le Maudit, avec Peter Lorre dans le rôle principal. Voilà, bon, M le Maudit, c'est quelque chose, c'est le chef-d'œuvre.
C'est ça.
Et en 1955, oula, je voulais un très très chouette film d'aventure, Les Contrebandiers de Moonfleet, avec George Sanders dans le rôle principal et Joan Greenwood dans le rôle de la jeune femme. C'est un très beau film, Les Contrebandiers de Moon. Puis il y en a plein d'autres, Fritz Lang. Ah là là, je voulais tous les noter, mais ça n'est pas possible. Il y en a beaucoup trop, ils sont tous excellents. Donc là, on est sur Le Tigre du Bengale. Donc on va rester sur ce tigre. C'est quoi? C'est l'histoire d'un architecte au départ, l'architecte Henri Mercier, qui se rend à Eshnapur, en Inde, où le souverain le charge de la construction d'un nouvel hôpital. Au cours de son voyage, Henri Mercier croise Sita, une jeune et jolie danseuse qu'il sauve des griffes acérées d'un redoutable tigre. Bientôt, une tendre idylle se lie entre Mercier et la belle. Mais le Maharaja s'est lui-même épris de Sita et Mercier devient ainsi son principal rival. Et alors là, on a une distribution aussi fantastique. On a Debra Paget, qui n'a pas vu Debra Paget dans le rôle de Sita, danseuse, qui ne l'a pas vu dans ses numéros de danse, n'a jamais vu une femme superbe qui danse les danses hindoues. Hein, c'est extraordinaire. Les scènes sont vraiment magnifiques, absolument. Très, très, vraiment. Elle est somptueuse, voilà, Debra Paget dans ce film. On a Walter Weir aussi, et on a alors le Maharaja, formidable dans son rôle d'ailleurs, Paul Hubschmid, alors lui c'est un Allemand, Paul Hubschmid qui joue le Maharaja. Walter Weir, lui, voilà. Non, pardon, je suis en train de dire des bêtises. Paul Hubschmid, c'est l'Allemand, c'est Henri Mercier, c'est l'archiviste, et Walter Weir dont je viens de parler, c'est Maharaja, Chandra. Voilà, j'étais en train d'inverser, excusez-moi, hein, là. J'ai inversé les deux, je suis tellement j'ai mon par cœur, je vous l'avoue, pour l'avoir vu.
Anne, nous t'entendons de moins en moins, Anne.
Pardon ?
Nous t'entendons de moins en moins.
Ah, pourtant là, mince, comment ça là, se fait ?
C'est mieux.
Est-ce que là, ça va mieux ?
Oui, c'est mieux.
Bon. J'ai changé un peu de place avec ce bon sang de téléphone. Et là, bon, donc je disais, est-ce que quand j'ai parlé de la somptueuse danseuse, ça s'est entendu quand même ?
Oui, tout à fait.
Oui, qui est vraiment, il y a des scènes formidables. Hein. C'est très très beau, c'est Fritz Lang en même temps. Hein. C'est du travail absolument sublime, parfait. Et donc, on peut passer tout de suite au tombeau. Qu'en dis-tu ?
Allez, on va passer à la suite. Du coup, le tombeau hindou, c'est sorti un mois après, donc toujours avec Fritz Lang. C'est la suite.
Voilà, c'est la suite qui est le mois suivant. Oui, ça dure 1h38, c'est toujours de l'aventure, c'est toujours Fritz Lang. Ce sont exactement les mêmes acteurs, c'est toujours allemand, français, italien. Et que se passe-t-il ? Eh bien, évidemment, comme le Maharaja est très en colère contre l'architecte, quand il se rend compte que Sita et lui, tombent amoureux l'un de l'autre, donc il commence à être, le Maharaja commence à être assez désagréable. Donc, la belle Sita et Mercier sont en fuite. Ils fuient le palais de Chandra. Chandra, c'est le Maharaja. Ils sont recueillis, épuisés par une caravane. Poursuivis par Rami Gani, qui est le frère du Maharaja, ils doivent se réfugier dans la montagne où ils sont finalement capturés. Ils sont ramenés à Eshnapur, où Sita est soumise au jugement des dieux, la danse du cobra. C'est-à-dire qu'elle doit danser un cobra, il y a un cobra vivant à côté, elle doit danser avec sur une musique quand même, effectivement, qui séduit les cobras, hein, cette musique envoûtante, là. Et elle doit danser, et si elle sait que si elle s'arrête, le cobra va la piquer, c'est-à-dire qu'il va sauter, si j'ose dire, il va se glisser sur elle et la piquer. Elle ne doit pas s'arrêter de danser. Et donc, et ce sont des danses extrêmement exténuantes. C'est de la danse incroyablement contorsionniste et très compliquée et très fatigante. Alors, je ne raconte pas, évidemment, ce qui va se passer. Bien sûr que non. Mais je vous assure que ces deux films sont merveilleux. Ils sont en couleur, hein, et ils sont merveilleux. Un Fritz Lang vraiment très réussi. Et le casting aussi est très réussi. Et les histoires sont très belles. L'histoire, le tigre et le tombeau, l'histoire est très jolie, très belle. Il y a un bon scénario. Voilà. C'était pour ces deux-là.
Donc, le tombeau hindou de Fritz Lang.
Voilà, le tigre du Bengale et le tombeau hindou. C'est le tigre d'abord et le tombeau ensuite.
Les deux sont sortis en 1959. Et maintenant, nous partons en 1963. Alors, oui. Voilà, avec oui. Un film qui s'appelle L'aîné voilà. Des fers chauds, avec Jean-Paul voilà. Belmondo.
On arrive chez l'aîné des fers chauds. Ah, c'est 1963, tu l'as dit, ça dure 1h40. Alors là, c'est du drame, c'est de l'aventure, c'est policier également d'ailleurs. Et c'est un film réalisé par Jean-Pierre Melville. Bah, Jean-Pierre Melville, on le connaît, c'est un film français-italien d'ailleurs. On le connaît absolument, bien sûr, réalisateur, scénariste, acteur français. Lui, il est décédé en 1973 à 55 ans. Enfin, je crois que c'est le cœur, hein. Je crois qu'il a fait une crise cardiaque. Donc, il a réalisé des films entre 1945 et 1972. Et il a réalisé vraiment des films super, mais qu'on connaît, Melville. En 1961, on lui doit, par exemple, Léon Brun, prêtre, avec Jean-Paul Belmondo, Emmanuel Riva. Un très beau film. En 62, le Doulos avec Jean-Paul, Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli, on avait Fabienne Dalli aussi, il y a également, alors ensuite on a eu en 69 l'Armée des Ombres avec Lino Ventura et Simone Signoret, réquisitoire contre le nazisme. En 1970, on a, alors là il est très connu celui-ci, Le Cercle Rouge avec Alain Delon et Bourvil. Magnifique. Et en 1972, j'ai mis de côté aussi Un flic avec Alain Delon et Catherine Deneuve. Très beau polar. Eh oui. Ah oui, oui, bon, ben voilà, Melville, on le connaît. C'est... Bon, quand on va voir un Melville, on n'est jamais déçu, c'est très rare quand même. Et là, dans L'aîné des fers chauds, ben, on retrouve Jean-Paul Belmondo, on a Charles Vanel, extraordinaire, on a Michel Mercier. Oui, oui, la Michel Mercier des Angéliques, de la série Angélique. C'est elle, la belle Michel Mercier. On a Stefania Sandrelli, très belle aussi d'ailleurs, cette actrice italienne. L'aîné des fers chauds, c'est très beau. C'est pareil, le casting est formidable. Bon, mais c'est pas celui qu'on revoit le plus souvent. Je regrette, moi. On voit beaucoup de Belmondo et L'année des fers chauds, pas souvent quand même. Hein. Alors, il est sorti, celui-ci, en DVD en 2007. Hein, si vous voulez le trouver. Voilà, pas cher du tout. On le trouve. Parce que si vous aimez Belmondo et si vous aimez Charles Vanel également, parce qu'il il a quand même un rôle très important, Belmondo, Charles Vanel, c'est un sacré duo quand même. L'aîné des fers chauds. Voilà, pour les fers chauds.
Voilà, donc.
Tu nous emmènes où après, Damien ?
C'est avec Jean-Paul Belmondo. Et on va terminer avec un film beaucoup plus récent, sorti à la fin des années 90, en 1999. Oui. Film de Dominique Farrugia, avec notamment Thierry Lhermitte, qui s'appelle Trafic d'influence.
Oui, oui. Là, je ris parce que ça, celui-là, c'est quand même un film. C'est pas une surprise. Mais enfin, je l'ai pas vu repasser à la télévision, ou alors ça a dû se faire, je ne sais pas quand. Il y a certainement très longtemps. Oui, c'est de mars 99. Oui, comme tu nous disais, c'est 1h35. C'est une comédie française de Dominique Farrugia. Alors, on le connaît, Dominique Farrugia, quand même. Hein, même si on n'est pas très habitué au cinéma, on connaît cet homme-là. Dominique Farrugia, c'est un réalisateur, producteur, acteur français. Il a 58 ans. J'espère qu'il va encore faire réaliser quelques films tout de même. Ben, qu'est-ce qu'on lui doit ? Oh, on lui doit des choses pas mal à lui aussi. Ben, par exemple, en 1996, il a tourné Delphine 1, trait d'union, Yann 0. C'était une comédie avec Julie Gayet, Serge Azanavicius, et puis on a Alain Chabat aussi dans ce film, Delphine 1, Yann 0. Très drôle, plutôt réussi quand même, hein. Un joli casting. En 2009, il a réalisé L'amour est mieux à deux. Alors c'est une comédie également avec Virginie Efira, Clovis Cornillac et Manu Payet. Casting très sympathique. En 2011, on a Le Marquis, avec Richard Berry, Jean-Luc Anglade, Franck Dubosc, Louisa Ranieri, c'est également une comédie. Il y a un peu policier, c'est un peu policier quand même, hein, parce qu'il s'agit de voyous, de gros voyous. Mais en même temps, c'est quand même très drôle. En 2015, il a réalisé Bis. Bis avec Cadmerade, Alexandra Lamy, Franck Dubosc. Et puis 2016, j'ai mis de côté, elle est connue cette comédie-là, Sous le même toit, avec Gilles Lelouch, Louise Bourgoin et Manu Payet. Celui-là, par contre, est passé déjà, est repassé à la télévision, Sous le même toit, oui, ils l'ont repassé, celui-là. Voilà, c'était pour le resituer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors là, dans trafic d'influence, ben d'abord on va voir ce que c'est, cette histoire de trafic d'influence. Ah, deux députés, Maxime Delabardière et Gérard Ravanelli, attendent leur transfert au palais de justice. Ils viennent d'être condamnés à 5 ans de prison pour trafic d'influence. Ils ne se connaissent pas, n'ont rien en commun et se détestent immédiatement. Sandrine Attan, policier au principe rigoureux, a reçu l'ordre d'escorter les deux hommes vers leur prison. Seulement, la France et sa capitale sont paralysées par une grève générale. Ce qui d'habitude est un banal transfert va devenir une épopée qui va durer 3 jours, d'autant plus qu'ils sont poursuivis. Alors ça, c'est l'histoire, en gros, comme ça. Et alors, on a quand même des champions là-dedans. On a Thierry Lhermitte, on a Gérard Jugnot, la policière, la petite flic, c'est Or Attica. Et puis on a également Lionel Abelansky aussi, qu'on connaît bien. Bon, c'est un joli casting, sympathique de toute façon. Et c'est un film très, 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 très drôle. Vraiment, on s'amuse beaucoup. Et c'est bien d'ailleurs que ces deux acteurs, là, Thierry Lhermitte, même Or Attica et Gérard Jugnot, aient accepté d'endosser ces rôles-là, qui sont quand même, dans ce film, ils sont humiliés constamment. Hein. Ils n'ont pas le beau rôle, hein. C'est quand même vraiment de type assez pourri, entre guillemets. Et donc... ils sont quand même bousculés, surtout par la petite fliquette, là, Or Attica, qui ne leur fait pas de cadeau. Voilà, c'est une réussite, parce qu'on rit beaucoup et que ça fait pas de mal, il me semble. Trafic d'influence, pour ça je voulais finir par celui-ci. Mais enfin, je pense que dans tous ceux que j'ai nommés, là, il n'y a rien de vraiment triste. Hein. Il n'y a pas de film, il y a un peu de tout. Il y a de la guerre, il y a de l'histoire, il y a du fantastique, d'amour, il y a des aventures, il y a un peu de polar, il y a un peu de tout, mais rien de bien triste en fait. Et puis est-ce que le cinéma est vraiment triste? Or, il arrive que certains d'entre vous, mes chéris, pleurent pendant un film, bien sûr, ça peut arriver. Mais dès que la salle se rallume et dès qu'on sort, qu'on rentre chez soi, ben c'est fini. C'est pas, voilà, c'est juste une émotion passagère pendant le film. Donc toutes ces émotions-là, après, c'est bon, ça passe, on les oublie. Dieu merci. Voilà. Voilà Damien.
Eh bien, super, merci beaucoup pour toutes ces propositions de films à regarder en attendant que les cinémas réouvrent.
Et oui.
Peut-être à la fin du mois, peut-être en février. On ne sait pas quand.
Mais il ne faut pas perdre courage. Hein. Bon, ça avance. Ça va se résoudre tout ça. Mes chéris, surtout, soyez bien heureux. Pensez bien à vous, prenez soin de vous, des gens qui sont autour de vous, hein, votre entourage également, puis soyez heureux, quoi, c'est sûr. Je ne vous le dirai jamais assez. Soyez heureux. Tant que vous pouvez être heureux, soyez heureux. Oui, voilà. Hein. Il faut vivre comment? Carpe diem. Allez, vivre le jour qui passe, là, intensément. Et ainsi de suite. Voilà. Ça vaut le coup, je pense. Et puis n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.